concis compte tenu de l'horaire. Je vous faire un petit point de situation maintenant sur les principales les principaux dossiers en cours. Ces principaux dossiers, vous l'avez compris, n'étant pas que de... Ah, il n'y a rien du tout, vous m'entendez là? Oui, bon alors, là vous m'entendez encore mieux, formidable. Voilà, donc les principaux dossiers en cours, les dossiers n'étant pas tous de l'armement terrestre, comme vous pouvez l'imaginer, donc c'est un petit update pour savoir où on en est. Et donc, pour déflorer le sujet immédiatement, vous avez quatre dossiers qui ont déjà été évoqués, donc sur lesquels je vais revenir. Et dans l'ordre, on peut dire que le drone européen, c'est celui qui fonctionne le mieux actuellement. On y reviendra. Ensuite, ce serait, d'après ce que l'on m'a dit, le SCAF, ou le FCAS, donc l'avion. En 3, le MGCS. Et en 4, un qui est un petit peu planté en ce moment, c'est l'avion maritime, le Maritime, comment il s'appelle, Airborne Warfare System, qui, lui, est planté par l'achat, bien entendu, du Lockheed P3 Orion par les Allemands. Alors, je reviens un petit peu sur, simplement, pour bien que vous compreniez ce qui se passe, c'est quelques caractéristiques de la relation franco-allemande telle que je l'ai vécue comme attaché de défense, en n'essayant pas de ne pas répéter, car beaucoup de choses ont déjà été dites. Nous sommes deux nations industrielles, donc on se tire des bouts, on se fait de la concurrence, ça c'est sûr, et ces deux nations ont un appareil de défense et une industrie de défense assez puissante qu'ils essayent de défendre chacun de leur côté. Et on peut dire que des deux côtés, eh bien, il y a quand même des coups tordus. Et puis les Allemands ne sont pas les derniers, ils savent très très bien faire, ce sont quand même des industriels purs et durs, pratiquement des anglo-saxons dans la manière dont ils se comportent, et ils peuvent être extrêmement brutaux. Et derrière, il y a bien entendu la question cruciale des exportations. La France est le troisième exportateur mondial, l'Allemagne, selon les années, le quatrième et le cinquième. Donc ils ont des prétentions, ils ont envie de monter en gamme. Et donc, et puis ensuite, ils se donnent les moyens de le faire. Hein. Ils vendent par exemple beaucoup à l'Australie, ils ont vendu des sous-marins à l'Égypte, etc. Donc voilà, et ils ont été extrêmement maris, j'allais dire, par le fait qu'on ait vendu des sous-marins à l'Australie, comme vous le savez. Et je pense qu'ils ont bien dû rigoler le jour où tout ça s'est arrêté, en disant bien fait. Ils considéraient, ils se voyaient comme les sous-mariniers du monde et ne comprenaient même pas. Moi, j'y étais à Berlin à l'époque, ne comprenaient absolument pas pourquoi les Australiens avaient pu préférer les sous-marins français. Et puis ensuite, il y a des logiques industrielles. Il y a Naval Group qui veut racheter des chantiers navals, TKMS, etc. Donc, alors, le fait qu'un Français veuille racheter un chantier naval allemand, ça fait des montées, des remontées de pression, des montées de gasoil absolument incroyables. Ensuite, il faut bien comprendre, ça a été un peu évoqué par Jean, les difficultés de différentes organisations et des chaînes de commandement. Nous avons un président de la République, il décide que le soir, on est au Mali, 12 heures après, on y est. Il décide. C'est une chaîne, c'est le régalien. C'est Louis XIV élu pour 5 ans. C'est pas du tout le cas chez les Allemands, on l'a bien compris. Le chancelier n'est absolument pas... c'est un grand coordinateur. Il est dans une coalition, ne l'oubliez pas. Trois partis, très très différents. Et donc, c'est le grand coordinateur en chef. Il a un pouvoir, j'allais dire, beaucoup moins important que ne peut avoir le président de la République chez nous dans sa capacité de décision. Il doit d'abord convaincre ses partenaires. Et ensuite, Jean ne revient pas dessus, a bien décrit le pouvoir du Bundestag. Et donc, ça, c'est... Et donc, tout doit passer par le Bundestag pour que quoi que ce soit se réalise, et y compris en opération ou un soldat en opération, c'est un vote du Bundestag. Alors que chez nous, c'est le président, il dit en avant et on part. Donc ça, c'est très important à savoir. Dans nos chaînes de commandement, c'est pareil. Quand on parle, je l'ai toujours dit, moi, quand le SEMA se déplaçait à Berlin, je lui disais, votre interlocuteur, ce n'est pas vraiment votre interlocuteur, il est à N-1, parce que le SEMA, là-bas, il n'a pas d'état-major des armées, il est inséré, il est chef d'une branche au sein du ministère de la Défense, il n'y a qu'un ministère de la Défense aux ordres de la ministre, et donc il n'a absolument pas les compétences régaliennes et importantes sur le plan militaire que peut avoir le SEMA chez nous. Il n'existe pas, il n'a pas d'état de major dédié. C'est le conseiller de la ministre, point. Et par exemple, il y a un commandement des forces terrestres, mais qui n'a pas d'état-major des forces terrestres. C'est simplement un commandement du CEMAT. Et les chefs d'état-major d'armée n'ont absolument pas les compétences des nôtres, notamment en matière capacitaire. Moi, en me déplaçant les voir, je m'apercevais qu'il y avait des dossiers, j'allais dire interarmés, qui leur échappaient complètement. Et la géographie a ses raisons, c'est-à-dire que tous les états-majors d'armée sont excentrés. Ils ne sont pas dans Berlin. Le plus près, c'est l'état-major de la Luftwaffe. Les autres sont soit à Rostock, soit 40 km à l'est de Berlin, ce qui fait qu'ils ne sont pas au contact des décideurs. Et donc ça, sur le plan historique, ça a des raisons historiques, eh bien c'est voulu pour qu'ils restent dans leur domaine de compétences, hein, terre, marine, air, et qu'ils n'en sortent pas d'une manière autrement. Alors ensuite, très rapidement, bon, là, vous savez que l'Allemagne est atlantiste, et pro-américaine, donc ça l'amène à prendre des décisions sur le plan capacitaire, souvent au profit des Américains. Nous sommes plutôt pour une autonomie stratégique et pour le développement de l'Union européenne. La France, avec la DGA, est complètement tournée vers le capacitaire, c'est-à-dire de satisfaire le besoin du combattant. Et je crois que la DGA, il faut le dire, moi je l'ai vécu pendant 3 ans, c'est un outil extrêmement précieux pour nous aider à développer les étés capacitaires. Quand l'Allemagne est tournée vers son industrie, c'est-à-dire que ce qui lui importe, c'est de faire fonctionner son industrie, peu importe si le truc qu'on a inventé fonctionne ou ne fonctionne pas tout de suite. Ce n'est pas grave, il faut faire fonctionner l'industrie. Donc l'industrie est puissante, elle est au centre des préoccupations, et donc l'industrie fait du lobby. Et lobby, là-bas, en Allemagne, ce n'est pas un gros mot, et chez nous, c'est un gros mot. Et donc ça change tout. Voilà. Donc, on peut revenir, alors on reviendra sur le Rheinmetall, qui est un lobbyiste fou, qui est présent tout le temps, partout, qui a les numéros de téléphone de tout le monde, et qui en permanence fait du forcing au Bundestag, partout, auprès des décideurs politiques. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans le pied dans la porte, clairement, lorsqu'on a commencé le projet MGCS. C'est l'invité mystère qu'on n'avait pas vu arriver. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que la France fait la guerre. Donc nous, on veut des matériels qui fonctionnent et que l'Allemagne fait au mieux du peacekeeping. Et donc, elle a le temps, même quand les matériels ne fonctionnent pas, elle a le temps. Et puis, elle développe son truc tranquillement. Le principal, c'est que le business tourne et puis qu'elle fasse de l'argent avec ses exportations. Et l'Allemagne est aidée par une réputation de sérieux, de rieur, qui fait qu'on lui achète volontiers ses matériels. On voit, je crois que le club Léopard 2, ça doit être une vingtaine de personnes, de nations à peu près. Donc c'est absolument... Voilà. Donc on est très, très différents. On est très, très différents. Alors, quand j'ai dit ça... ce que j'ai pu observer et ce qu'on m'a confirmé encore dernièrement dans mes discussions, c'est que les volontés politiques, je dis bien, des décideurs sont très sincères pour aller de l'avant en matière capacitaire sur les principaux dossiers. Mais, le diable se cachant dans les détails, dès qu'on parle industrie, c'est là que ça commence à ne plus aller parce que les industriels veulent le maximum de parts de gâteau et sont prêts à tout pour le récupérer. Et autant, par ailleurs, et ça c'est aussi une différence de culture, autant notre industrie de défense est un peu pilotée par l'Élysée. Trappier, quand il parle du Rafale, il va au cabinet ministre, il a le numéro de téléphone du président de la République. Autant en Allemagne, les industriels sont libres et ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas pilotés par le gouvernement. Le gouvernement les aide, mais ils font absolument ce qu'ils veulent. Et donc, il y a une véritable différence de nature et du poids de l'industrie dans leur capacité et leur pouvoir de nuisance. Voilà. Donc, quand on a dit ça, alors, revenons à nos sujets. Vous avez compris, je ne reviens pas dessus, qu'il y a eu quand même beaucoup de succès dans le passé en matière d'industrie de défense et de matériel qui ont été faits en commun. Hein. On a déjà le Transall, la Sadvet, le Milan, le Missilote, le Roland, l'hélicoptère Kib, NH90, A400M aussi. C'est avec des autres, mais on l'a fait avec eux. N'oubliez pas qu'on leur a acheté du HK416 également, le nouveau fusil, donc c'est chez eux. La poudre vient beaucoup de chez Rheinmetall, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'interactions, et tout n'est pas négatif. Alors, maintenant, quand on a dit ça, qu'est-ce qui se passe maintenant ? En matière de SCAF, donc on va commencer, alors, on va prendre dans l'ordre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui fonctionne bien. Ce qui fonctionne bien, l'Eurodrone, donc le drone MALV moyenne altitude, hein, longue endurance, c'est un bimoteur qui fera 11 tonnes à peu près. C'est un très gros truc, hein, qui fera 30 mètres d'envergure. C'est un projet qui fonctionne, à ma grande surprise, parce qu'au début, il y a eu des grosses querelles, il fallait qu'il soit bimoteur. Pourquoi bimoteur ? Parce qu'en Allemagne, les monomoteurs n'ont pas le droit de voler. Alors, il faut qu'il soit bimoteur. Donc, simplement pour se conforter aux règles de l'aéronautique. Voilà. Il reste le problème du choix du motoriste, qui sera, dont les Français voudraient bien que ce soit MBDA. Alors j'imagine que chez les Allemands, ils voudraient que ce soit MTU, j'imagine, voilà. Et le premier prototype doit voler en 2024. Et donc, il est prévu pour succéder au Reaper qu'on a acheté aux Américains en 2030. Donc voilà, donc ça c'est un projet qui fonctionne à peu près, à cette différence près que les Allemands n'ont toujours pas fait le choix d'armer ce drone, alors que nous, il est évident, aujourd'hui, surtout avec ce qu'on voit en Ukraine, qu'on va l'armer. Mais je pense que ça va aider aussi à faire mûrir les Allemands dans leur réflexion. Le deuxième, c'est le SCAF. Alors le SCAF, on l'a bien vu, hein, il est prévu pour remplacer le Tornado, donc qui fait du bombardement, donc c'est un avion de bombardement au sol, et qui transporte la B-61, c'est-à-dire l'armement nucléaire de l'OTAN également, et puis l'Eurofighter, très différent, c'est un intercepteur, et puis le Rafale, qui lui est multirôle. Donc, différence au départ du coup, c'est que nous, on veut toujours un avion multirôle qui soit capable de tout faire. Les Allemands, ils préfèrent un intercepteur, et pour une bonne raison, c'est qu'ils ont déjà mis un coup de canif au contrat, c'est qu'ils ont acheté ils ont annoncé qu'ils achetaient le F-35. Et le F-35, c'est lui qui va faire le rôle de bombardement au sol, qui portera la bombe américaine. Donc, ce qui fait qu'on a pu, d'un point de vue calendrier, ils ont déjà plus la même urgence. Le Tornado devait être remplacé à partir de 2025. Donc, ils en avaient un besoin très urgent. Moi, quand j'étais à Berlin, on parlait d'acheter du F-18, on parlait de transformer les Eurofighters, mais c'est un intercepteur, ça marche très très mal. Et donc, finalement, ils ont décidé d'acheter du F-35 avec le problème de la. Qui dit F-35 dit ITAR, c'est-à-dire composant américain, et donc le problème très sensible de la connectivité avec l'avion du futur. Hein, donc on se lie à la technologie américaine et donc on s'éloigne, hein, vous voyez, atlantiste, elle est atlantiste, on s'éloigne considérablement aujourd'hui de l'autonomie stratégique, je dirais, sur le plan industriel et capacitaire. Donc tout simplement. Voilà. Alors actuellement la querelle porte essentiellement, alors il y a 7 piliers, mais porte encore essentiellement sur le pilier 1, c'est-à-dire le chasseur lui-même. Mais après, il y a encore les moteurs, il y a les effecteurs, il y a les capteurs, la furtivité, enfin, vous voyez, il y a un certain nombre, il y a 7 piliers en tout, qui sera trop fastidieux. Mais le vrai problème aujourd'hui, les choix, c'est-à-dire ce qu'on appelle le workshare, la répartition du travail entre Airbus et Dassault, n'est pas encore tout à fait établie. En plus, vient se rajouter l'équation espagnole. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dassault et Airbus, ils disaient, c'est 50-50, très bien. Et puis après, comme on rajoute les Espagnols, il y a Airbus en Allemagne, c'est les 50% de l'Allemagne. Et puis vient Airbus Espagne. Donc ça fait 30-30-30 et puis 50, mais ça fait maintenant 2/3 pour Airbus et 1/3 pour Dassault, vous comprenez bien. Et donc, forcément, on n'est pas forcément très content sur ce deal, parce qu'en fait, c'est Airbus qui a la plus grosse part. Bien sûr, il y en a une partie espagnole, une partie allemande, mais Airbus, aujourd'hui, conteste la maîtrise d'œuvre qui est normalement confiée à Dassault, compte tenu de son expérience de 70 ans de construction d'avions, etc. Rappelons que les Allemands n'ont pas construit un avion depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hein, faut bien le dire. Ça fait des moteurs, ça fait des tas de trucs, de sous-traitance, mais ils n'ont pas construit des avions. Et justement, une des grandes querelles, c'est de rattraper leur retard. Et avec le SCAS, ils voulaient que, bien sûr, Dassault livre ses secrets industriels. Ce qu'on appelle le foreground et le background. Le background, c'est l'expérience accumulée. Donc 70 ans, je sais faire des avions. Mais alors maintenant qu'on est copains, tu me donnes tout. Et puis ensuite, on développera ensemble le reste. Alors on leur a dit non, nous, les secrets industriels accumulés, c'est les nôtres, donc on fabrique, c'est nous. Et puis ce qu'on développe ensemble, le foreground, eh bien on le partagera sur le plan propriété industrielle. Bon, donc ça c'est un petit peu moins prégnant, mais ça reste, ils veulent rattraper leur retard sur le plan de l'aéronautique, il n'y a aucun souci. Voilà. Mais ceci dit, ce que me dit la DG actuellement, c'est on n'est pas très loin. Alors moi, je suis assez surpris parce que quand on lit les journaux, c'est assez pessimiste. Et la DGA, pas plus tard qu'hier, me disait non, on n'est pas très loin. C'est plus avancé que le MGCS actuellement. Alors le MGCS, on n'en reparle pas. Donc, puisque Arnaud a tout dit là-dessus, avec le grand méchant qui est quand même Rheinmetall sur le coup et qui a mis le pied dans la porte. Et puis le dernier dossier, c'est le patrouilleur maritime dont j'ai dit, oui, c'est ça, oui, le patrouilleur maritime. Donc là, les Allemands ont acheté 5 P8, du Poséidon, ouais, c'est ça, 5 Boeing P8 Poséidon en remplacement du Petro Orion. Et donc là, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que le projet est au point mort. Ils n'ont plus les mêmes contraintes calendaires. Nous, il faut qu'on remplace nos brigues atlantiques. Et donc, je pense que le projet, pour le moment, le projet ne se fera pas. Voilà, donc on en est là. Alors, ensuite, pour conclure avec ça, c'est le problème du fonds d'investissement de 100 milliards dont on a déjà parlé est une très très grosse inquiétude pour les autorités françaises parce que ça va, c'est un 100 milliards qui doivent être investis en 4 ou 5 ans. Et donc, ça va donner un différentiel, je dirais, sur le plan capacitaire, absolument énorme au profit de l'Allemagne. Il y aura un très très gros équilibre en faveur de l'Allemagne. Et l'Allemagne, en faisant ça, explique très clairement qu'elle veut prendre le lead industriel au niveau de l'Europe. Et c'est donc une Allemagne décomplexée qu'on peut rapprocher de ce qu'a dit Olaf Scholz dernièrement, qui veut pour l'Allemagne une position dirigeante de l'armée allemande en Europe prochainement. Et alors là, compte tenu de ce que j'ai dit sur l'importance de l'industrie dans le mental allemand, qu'on connaît, c'est aussi une position leader de l'industrie allemande. Et donc ces 100 milliards doivent aider l'industrie allemande à acquérir également une position dominante. Donc ça inquiète beaucoup tout le monde. Et donc il faut garder un œil là-dessus. Et ensuite, pour terminer avec ça, il y a quand même une inquiétude. Vous avez entendu que le sommet du 25 octobre, c'est-à-dire le Conseil des ministres franco-allemands qui devait avoir lieu le 25 octobre à Fontainebleau, a été annulé. On parle bien entendu là du bouclier des patriotes pour lequel on n'est pas très content, bien entendu, parce que c'est encore une partie de notre industrie qui va être donnée pieds et poings liés aux Américains, parce que bien sûr, on veut acheter américain. Mais on ne sait pas exactement. Là, aujourd'hui, ça date d'hier, on ne sait pas exactement quelles sont les difficultés réelles et les raisons réelles qui ont poussé les deux gouvernements à annuler cette réunion quand même très importante où on devait discuter des dossiers capacitaires. Et donc, il faut rester très très prudent sur l'évolution de ces dossiers. Le diable se cache dans les détails et il n'est pas du tout assuré que ce que je vous ai dit là ce soir soit encore valable demain ou après-demain. Et donc, gardez bien ça en tête. Je veux dire, c'est les dossiers capacitaires dans le franco-allemand. Eh bien, on pourra dire que c'est un succès quand ils sont sortis. Et on l'a bien vu depuis 50 ans. Notre capacité intrinsèque à faire capoter un certain nombre de dossiers majeurs doit nous inciter à la plus grande prudence. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ce soir.